témoignage écossais.
Une idée du Suprême Conseil pour la France.
Présenté par Stéphane de Mazure et Claude Guichard.
Quand on parle d'histoire et à la Guénon, c'est pas de l'histoire, c'est de la méta-histoire.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Témoignages écossais consacré à un auteur maçonnique et franc-maçon dont les ouvrages occupent sans doute quelques pans d'étagères de vos bibliothèques ésotériques. Agrégé, docteur en histoire et en sciences religieuses, il a reçu en octobre dernier à Angers le prix littéraire des rencontres écossaises pour l'ensemble de son œuvre. Son dernier ouvrage, publié chez Derby, est consacré au haut grade maçonnique du rite écossais ancien et accepté, sous le titre alléchant de grande œuvre et art royal. Dominique Jardin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation devant les micros de Témoignages écossais. Nous sommes très heureux de te recevoir et t'adressons encore toutes nos félicitations pour ce prix, où tu succèdes à Jacques Trescaz en 2022 et à Bertrand Vergely l'année dernière. Ton œuvre fait de toi aujourd'hui un auteur incontournable pour tout initié qui souhaite approfondir ses connaissances des arcanes du rite, mais aussi qui s'intéresse aux racines historiques de la franc-maçonnerie. Enfin, et nous allons le constater à travers nos échanges, ta rigueur d'historien permettra de nuancer certaines interprétations hâtives ou commentaires imprécis qui parfois prennent un peu trop de liberté par rapport à la réalité des faits.
Oui, quand tu évoques les arcanes du rite et les racines historiques de la franc-maçonnerie, certaines de ces racines sont dévoilées quand même depuis longtemps. Je m'intéresse plutôt modestement aux racines des rituels, en tout cas de certains rituels, et leur mise en musique en quelque sorte à travers les âges.
Eh bien écoute, nous allons partir ensemble sur les traces de la tradition et de la transmission en compagnie de Claude Guichard, second pilier de Témoignages écossais. Bonjour Claude, comment vas-tu? Et quelle première question souhaiterais-tu poser à Dominique?
Bonjour Dominique, bonjour Stéphane.
Bonjour Claude.
La tradition est un sujet majeur de la franc-maçonnerie, et j'irais presque du rite écossais ancien et accepté en particulier. C'est un sujet compliqué, toujours lié à la transmission et à l'initiation, sujet compliqué qui peut parfois aboutir à des incompréhensions, et parfois même à des interprétations passionnées qui ont pu donner lieu à des clivages ou des séparations entre les différentes juridictions. Pour Témoignages écossais, l'important, c'est de partager, c'est de comprendre, c'est de réfléchir. Et c'est pourquoi que sur un thème aussi important, nous avons pris la décision de consacrer 3 épisodes, 3 intervenants différents qui ont en commun le fait d'avoir passé beaucoup de temps, d'avoir réfléchi sur ce sujet, et puis d'avoir des approches et des vécus extrêmement différents. Alors Dominique, comme tu es le premier, je vais te poser la première question relativement simple. Quelle est ta définition de la tradition?
Alors les questions sont toujours simples, les réponses quelquefois moins. Déjà, pour parler de tradition, je crois que de manière effectivement très simple, on peut diviser considérer deux approches. Une première approche considère la tradition au singulier et en général avec un T majuscule. On parle de la tradition. Et puis la deuxième approche, qui est plutôt celle des historiens, considère qu'il s'agit plutôt de tradition au pluriel et donc avec un petit T. Mais peut-être que ces traditions au pluriel peuvent se subsumer à un moment donné ou dans certains esprits sous l'appellation de tradition au singulier. Encore faut-il bien distinguer ce de quoi on parle. C'est un petit peu comme la connaissance sublimée avec un grand C ou les connaissances avec un petit C et un pluriel. Les historiens, modestement, s'attachent aux connaissances avec un petit C et un pluriel, quitte à ce que ça permette d'alimenter un discours sur la connaissance. Mais dans ce cas-là, c'est plus de leur ressort.
Merci.
Alors, Dominique, pour poursuivre cet entretien, on s'aperçoit en t'écoutant qu'il existe des mots ou des concepts qu'on pourrait qualifier de valises, des mots valises qui traversent la franc-maçonnerie. Et justement, les mots de tradition, de transmission, mais aussi de symbolisme, n'échappent pas à ce phénomène. Alors, quelle est la bonne méthode pour les analyser et les utiliser correctement? Est-ce qu'un bon dictionnaire étymologique pour commencer?
Alors peut-être, mais ça ne suffit jamais. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas de définition de dictionnaire, mais d'approche de notions et de construction de ces notions. Par conséquent, c'est pas si simple. Il s'agit plutôt de décrypter des concepts, comment ils se sont chargés de signification progressivement. Et après, on explique quelle signification on choisit. Et on donne les éléments permettant de s'y retrouver, en quelque sorte. Donc, je crois que l'approche de dictionnaire, qui est pratique pour se réfugier et saisir une rampe un petit peu solide en première instance, ne suffit jamais. Surtout avec des notions aussi potentiellement floues. Je reprends la phrase de Jean-Charles Nair qui dit « Les maçons se font du symbolisme une idée vague et ils appellent symbolisme le vague même de cette idée ». Donc, bon, effectivement, ce sont simplement les notions en général sont feuilletées. C'est-à-dire qu'il y a une première approche, et puis ensuite, si on gratte un petit peu le concept, il y a une deuxième approche, et après, tout l'art va être, en tout cas la méthodologie historienne, ça va être de considérer comment ces concepts s'emboîtent les uns dans les autres, et qu'ont-ils à se dire, comment ils vont dialoguer, et comment ils vont apporter des réponses aux questionnements, parce qu'il faut interroger les notions. Il ne faut pas rester comme ça, béat, devant une notion. Ah, le dictionnaire a dit, c'est comme quand on dit le rituel dit que. Ouais, mais il dit que, mais il faut gratter. Et ça, le travail de l'historien, alors certains commencent à ne plus du tout être d'accord quand on sort le mot de déconstruction, parce qu'il est historiquement daté, mais je rappelle que déconstruire n'est pas détruire. Déconstruire, ça permet de démonter le réveil, de poser les éléments du réveil avec beaucoup de sérénité sur la table et de tous les considérer, de les mettre en miroir et en système les uns avec les autres. On aboutit à une espèce de grammaire, y compris si elle est symbolique, et cette grammaire permet d'aborder les rituels. Donc il y a tout un travail quand même préparatoire et qu'il ne faut jamais perdre de vue pour, si on veut en tout cas, tenir un peu fermement la rampe de l'histoire.
Alors, tu associes la tradition à la transmission et quand on a préparé cette émission, je me suis aperçu que tu aimais dire que la tradition se construit au fur et à mesure qu'elle se transmet. Je me souviens de cette phrase qui m'avait marqué. Ce qui veut donc dire qu'elle n'est pas figée dans le marbre et encore moins dans nos rituels, du coup.
Bien sûr. La notion de tradition est... En tout cas, quand on l'interroge sur le mode singulier, c'est en fait une évolution. Et une évolution avec des rythmes, avec des phases où elle se stationne en quelque sorte. Et puis ensuite, elle évolue de nouveau. Et ça dépend des apports. Quand on reprend les traditions au pluriel, eh bien, si on voit qu'il y a plusieurs éléments qui vont aboutir à la construction de ce corpus, eh bien, quand tel ou tel élément est introduit, ça fait bouger l'ensemble du système. Mais en même temps, l'idée, c'est que, en tout cas dans le champ maçonnique, la tradition aussi se construit en même temps qu'elle se transmet, puisque une des valeurs fondamentales de la communication, de la transmission, c'est l'initiation. Mais cette initiation, elle est aussi évolutive d'un grade à l'autre. Et on ne peut pas dire, même si on a parcouru l'ensemble des grades, qu'on va être initié à cause de cela. C'est à chaque fois un ensemble de déclencheurs qui vont permettre d'accéder à des pans plus ou moins cadrés, plus ou moins reliés les uns aux autres et de cette même tradition.
Alors, c'est vrai, Dominique, que c'est quand même une question, je trouve, assez fondamentale. C'est-à-dire que tradition, transmission, c'est vrai, sont inséparables. D'ailleurs, étymologiquement parlant, c'est le cas. Mais, pour autant, sont-elles totalement dépendantes ? Je veux dire par là, c'est que la transmission se doit d'être évolutive. Est-ce que la tradition doit évoluer au même rythme, au risque de perdre son rôle de gardien, c'est-à-dire de laisser la transmission partir un peu dans tous les sens ?
Alors, ceux qui se prétendent ou se proclament, s'auto-proclament les gardiens de la tradition, oui, ou les grands gardiens de la tradition, il y a même des grades faits pour ça, hein, ça veut dire qu'ils sont dans le champ symbolique. Mais il est bien évident que cette transmission est aléatoire et insuffisante, la tradition via l'initiation. Elle est nécessaire comme déclencheur, mais elle n'empêche pas le vrai travail qui se fait à la fois individuellement et collectivement sur le champ de cette initiation, et pas seulement le vécu du senti. Hein, c'est vraiment une mise à jour des éléments du légendaire qui a été mobilisé pour tel ou tel grade et son inscription dans l'ensemble du légendaire maçonnique et sa compréhension par justement l'appropriation d'un certain nombre de feuilletages de signification.
Alors, Dominique, dans le sujet qu'on traite aujourd'hui, il y a une partie qui n'est peut-être pas liée directement à l'histoire. Et je fais référence à un auteur qui est René Guénon, qui évoque, lui, la notion de tradition primordiale, immuable et d'origine non humaine. Ce qui veut dire que l'historien, là, n'a pas sa place dans ce cadre, sauf à considérer cette notion de tradition comme un mythe. Alors, comment tu te situes par rapport à ça, toi, en tant que, j'allais dire, historien à la base ?
Ben, les historiens ont quand même, j'allais dire, la vocation, au-delà de la permission, en tout cas, ils se l'octroient directement, de faire l'histoire de cette mythologie. Parce que si on dit on a affaire à un légendaire, à une mythologie traditionnelle, eh bien, on peut en faire l'histoire. Et cette histoire, justement, c'est l'histoire des rituels, c'est l'histoire du corpus symbolique maçonnique. Et les historiens, qu'ils soient maçons ou pas, y ont parfaitement accès. Il suffit de lire les textes et d'aller... Alors, bien sûr, les textes ne donnent qu'une facette de l'initiation, parce que c'est un comment dirais-je, de même qu'on dit de l'opéra, vous ne connaissez que le livret. Mais c'est pas parce qu'on a le livret qu'on a accès à ce qu'est un opéra. Après, il y a l'idée de justement du spectacle de l'opéra, avec tout ce que ça suppose comme distanciation, fascination. Et donc, le texte est insuffisant, mais il est nécessaire. Et on peut, grâce au texte et grâce à l'étude du texte, qui ne se donne pas tout fait, mais qu'il faut décrypter, qu'il faut faire vraiment un travail d'historien, comme sur tout document. C'est un document, donc on le met en rapport avec les autres documents du même genre, et puis on voit ce qui se passe. Hein, donc, vraiment, je reviens sur la notion de travail pour qu'il y ait une appropriation historienne qui complète et ne remplace pas l'appropriation symbolique ou maçonnique.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de la tradition primordiale. Personnellement, je préfère le terme immémorial que primordial. Mais c'est vrai que les rites que nous pratiquons sont quand même de grands emprunteurs. Ils ont emprunté, en fait, à beaucoup de traditions, à la religion, aux religions, etc. etc. Mais on peut quand même remarquez que la plupart de ces traditions auxquelles nous avons fait des emprunts avaient quand même un objet métaphysique. Donc, comment l'historien fait pour que cet aspect métaphysique n'échappe pas ?
Je rebondis, et on va rentrer dans le méta de manière un petit peu rigoureuse. Quand on parle d'histoire et à la Guénon, c'est pas de l'histoire, c'est de la méta-histoire. Et le temps du légendaire maçonnique, quand les rituels disent discours historique, c'est tout sauf historique, bien sûr. C'est de l'histoire mythique, c'est de l'histoire légendaire. Donc, en fait, d'un côté, l'historien n'y a pas accès, puisqu'on est dans le méta. Hein, donc la méta-histoire, a priori, ça ne regarde pas l'historien. Mais ça le regarde quand même, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il s'autorise l'histoire de cette méta-histoire. Comment on construit une méta-histoire ? De même que l'historien se demande comment se construit un sacré à travers un rituel. Alors c'est de l'anthropologie autant que de l'histoire, mais c'est quand même quelque chose comme quoi il y a une approche pluridisciplinaire qui ne doit jamais être exclusive des autres approches, mais qui doit les sédimenter pour obtenir des grilles de lecture qui vont se répondre et s'harmoniser les unes avec les autres, ou rentrer en conflit les unes avec les autres. Il est bien évident qu'un historien peut s'intéresser aux textes de Guénon, parce qu'ils sont souvent très intéressants, mais en même temps, il n'est pas dupe. ce n'est pas de l'histoire. Et donc, quand Guénon fait de la métaphysique, pourquoi pas ? Mais quand Guénon prétend faire de l'histoire, là, l'historien commence à sortir le bazooka.
Oui, c'est vrai.
Oui, carrément.
Bah, oui.
Mais dans ton excellent ouvrage, hein, je fais de la publicité, qui s'appelle « La tradition des francs-maçons », qui est publié chez Dervy, tu emploies souvent le terme de « contre-histoire ».
Oui. Alors, c'est David Bial, qui est un historien de la Kabbale, qui a formalisé cette idée. Alors, c'est un peu compliqué quand même. Je veux bien me lancer là-dedans. Mais la notion de contre-histoire, ça veut dire que les métaphysiciens se placent quelquefois, et notamment Henri Corbin, dans le Temple, Temple et Contemplation, a développé un peu cette idée, que les historiens n'ont rien à faire dans cette affaire. Et que, au contraire, il y a une espèce de surplomb des métaphysiciens. Ça fait penser aux thèses de Gadamer. On pourrait développer longtemps, et j'essaie de le faire dans cet ouvrage. Mais c'est un clivage. C'est un clivage très important. Et c'est vrai que beaucoup de ceux qui prétendent faire de la métaphysique, eh bien, se placent délibérément dans le champ de ce qu'on appelle la contre-histoire.
Tout à fait. Parce que tu vas même jusqu'à dire, si ma mémoire est bonne, que notamment au rite écossais, les dits hauts grades seraient la contre-histoire des premiers degrés du rite.
Alors, c'est pas forcément la notion de contre-histoire, c'est plutôt la thèse en fait développée par Yann Assman. Dans Moïse égyptien, qui parle de la religio duplex, donc le double de la religion. Sous-entendu, les hauts grades seraient le double sous-entendu secret des grades bleus, de même que quand, et Yann Assman le montre très bien, dans l'Égypte ancienne, quand les prêtres n'ont plus tellement de pouvoir politique, on a compensé ce déficit de pouvoir politique par l'attribution d'un pouvoir symbolique et d'un pouvoir initiatique. En disant, vous n'avez plus la potestas, mais on vous redonne... On vous donne l'autoritas. Et ça, il y a toujours un peu cette ambivalence ou cette complémentarité. Et là, ça traverse vraiment les grades maçonniques en disant il y a les grades bleus, c'est de l'ordre, et de même les obédiences sont de l'ordre de la potestas, la puissance, le conseil de l'ordre, pour dire les choses clairement dans une obédience comme le Géo. Et puis, il y a l'autoritas, et vous savez bien que les deux ne vont pas sans l'autre, même si les deux sont toujours en quête d'appropriation de ce que prétend être l'autre. Et l'autoritas serait, alors là, c'est les historiens qui parlent, les juridictions n'osent pas employer ce genre de détermination, mais les hauts grades seraient l'autoritas de la potestas. Et ça traverse l'Église, ça traverse beaucoup d'institutions, en disant oui, mais vous voyez, il y a le pouvoir, mais ce pouvoir, pour être un vrai pouvoir, est incomplet. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà et récupérer la pluralité des pouvoirs et la totalité des pouvoirs. Donc, et en même temps, il y a un jeu de ping-pong entre ces différents pouvoirs, parce que bien sûr, non seulement il y a une espèce de rivalité dans la légitimité, mais de complémentarité. Et chacun distribue son champ et essaie de gérer son champ de compétences. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les mêmes bons hommes, les mêmes frères qui sont à la manœuvre dans le champ, mettons, obédientiel et dans le champ juridictionnel. Donc, en fait, c'est pas comme s'il y avait ceux qui auraient toute la légitimité obédientielle et ceux qui n'auraient que entre guillemets, la légitimité de l'autoritas, ce sont les mêmes. Même s'il y a un partage quand même, et quelquefois des renvois de balles. « Ah, t'as pas pu être grand maître, bah, c'est pas grave, tu vas devenir très puissant, souverain. » Vous voyez le genre,
hein, bon. Oui, on voit le genre.
Donc,
oui.
Et ça, toutes les obédiences et toutes les juridictions, même si elles ne le disent pas, et surtout ne le disent pas, sont sujettes à ce genre de...
Toute ressemblance avec des personnages existants ayant existé
absolument.
Ne serait que pure coïncidence.
Absolument.
Alors, Dominique, pour te permettre de sortir ton bazooka, je voudrais un peu insister sur un point. Et peut-être qu'on va quitter le domaine, j'allais dire, pur de l'histoire, qui est la question des origines. Tu sais, on a rencontré à Angers un très grand astrophysicien, Trinh Van Tuan, qui nous a parlé en tant que scientifique de l'origine de la création de l'univers, du Big Bang, etc., de tout ce que la science permet d'accéder. Mais il ne s'interdit pas d'avoir une vision, j'allais dire, d'un principe créateur. Est-ce que toi, en dehors de ton... Là, peut-être que c'est très personnel comme question, mais est-ce qu'en dehors de ton rôle d'historien et du travail que tu fais pour toujours sourcer ce que tu nous expliques, est-ce que tu t'autorises aussi parfois à aller sur ce terrain qui est celui de se dire, mais derrière cette tradition, avant cette tradition, qu'est-ce qui fait qu'on en a conscience ?
Ah mais ça, moi, enfin, rien ne me perturbe à ce niveau-là. Je suis très accueillant à l'égard de toutes les croyances et je crois que, enfin, sitôt qu'on distingue le domaine de la croyance du domaine de la connaissance, ou des connaissances plutôt, distinction faite, moi rien ne me perturbe. Hein. Ce qui me perturbe, c'est quand il y a des récupérations de croyances sous forme de science ou de pouvoir, à la fois les essences et le fonctionnement de ces essences. Donc, je crois qu'il faut être prudent, mais accueillant. Moi, du moment qu'on distingue croyance, l'historien, il est très modeste. Il dit, j'essaie de trouver des connaissances. Et les connaissances, je les base sur des documents. Et donc, si mon interprétation du document... Parce que le document doit être interprété. Il doit être non pas présenté comme tel, c'est insuffisant, mais il faut dire le document, il arrive dans un contexte. Ça veut dire qu'il a telle hauteur, il s'adresse à tel public, c'est éventuellement un groupe de pression, y compris maçonnique, qui, à travers un grade, veut exister... veut se manifester, exemple les trinitaires. Donc, il faut donner des clés de compréhension du document. Si on a le document brut comme ça, on essentialise les choses sans aller plus loin. Or, le boulot de l'historien, c'est de ne pas s'en laisser compter, en général. C'est pour ça qu'il est toujours un peu impertinent, l'historien. Il dit, tout ce que vous me racontez, c'est très, très intéressant. Mais derrière, qui a-t-il ? À qui ça s'adresse à qui ? Et dans quel but ? Tu vois, il y a une espèce de... Là, on est dans la déconstruction. On n'est pas dans un discours naïf. Et après, on montre que certains ont utilisé ce discours sur le mode prétendument naïf, mais pour faire passer des choses qui ne sont pas du tout naïfs, qui sont justement des enjeux de pouvoir.
Oui, mais comment tu expliques que toutes les cultures, historiquement, même celles qui ne se croisaient pas, qui ne se connaissaient pas, ont eu, à un moment, cette conscience ou cette volonté de remonter à une tradition, à des mythes, à chercher l'histoire d'un début. C'est quand même quelque chose qui est commun à l'humanité, y compris à une humanité qui ne se connaissait pas. Et il y a toujours eu cette conscience d'un absolu dans l'humanité. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui te pose question à toi, ou est-ce que toi, tu restes sur ce que tu nous expliques là, c'est-à-dire, moi, je travaille sur des faits et je travaille sur des recherches qui ne vont pas sur ce terrain-là.
Moi, ça m'intéresse beaucoup d'aller sur ce terrain-là, mais pas avec les billes de l'histoire. À ce moment-là, j'y vais avec des billes anthropologiques et j'y lis des livres d'anthropologie. Donc, je crois qu'il faut reconnaître ses limites. Mais l'historien a tout à apprendre des anthropologues. De même que les anthropologues, il y a toujours un dialogue fructueux entre historiens et anthropologues. Hein, il y a des domaines... Sitôt qu'il n'y a plus de documents, l'historien se retire sur la pointe des pieds ou en disant comment on pourrait éventuellement combler ce vide. Puis s'il n'y a pas de document, on ne va pas faire fonctionner notre imaginaire en disant peut-être... On peut établir des scénarios, mais c'est encore complètement différent que d'avancer dans du dur en disant voilà, j'ai tel document croisé avec tel autre document et j'arrive à la conclusion que, qui est toujours provisoire, puisque à tout moment, on peut découvrir d'autres documents. Donc, c'est potentiellement toujours remis en cause. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est clair. Mais il y a quand même un fil, quelque part. Il y a un fil. Enfin, je veux dire, un des éléments qui nous occupe beaucoup hein, dans nos recherches, c'est le temps. Et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser quand on regarde un petit peu le fil de l'histoire, comme on dit.
Oui.
Est-ce que tu ressens, justement, dans tes recherches, est-ce que tu peux ressentir le fait que cette tradition ou ces différentes traditions, quelque part, dans le fil continu, échappent au temps ?
Volontairement, elles échappent au temps, puisqu'on est dans la méta-histoire. Le temps que nous fabriquons quand nous ouvrons les travaux d'un atelier maçonnique, j'allais dire quel qu'il soit, on donne quelques coups de maillère, il y a un peu de lumière, il y a quelques paroles du vénérable ou de celui qui, dans d'autres grades, va remplacer le vénérable, et puis on fabrique du sacré. Ou en tout cas, on sacralise un temps et un espace. Donc, il y a une porte éventuellement basse, il y a tout un appareil, tout un décor qui est à la fois dans le temple, sur le tablier du maçon, sur le tableau de loge qui est essentiel pour la construction du rituel et pour la manière dont, j'allais dire, les informations initiatiques vont circuler. Tout cela, ça participe au moment de l'ouverture et on défait tout cela au moment de la fermeture des travaux, ça participe de la construction d'un temps et d'un espace sacré ou sacralisé. Tout le problème, c'est est-ce qu'il est sacré en soi et on n'a plus qu'à le dévoiler, qu'à le découvrir, ou est-ce que c'est une sacralisation, c'est-à-dire un processus qui fait que, volontairement, on construit ce sacré.
Bien sûr. Non, mais toute la notion de dévoilement, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On va pas revenir à Pierre Hadot, mais bon, ça sera peut-être l'occasion d'une autre rencontre.
Alors, Dominique, tu es aussi un spécialiste de l'analyse des tableaux de loge. Je voulais pas qu'on oublie de parler de ce sujet-là, et donc, de l'iconographie maçonnique. Tu as d'ailleurs publié un ouvrage à ce sujet intitulé « Voyage dans les tableaux de loge ». Et encore une fois, et encore quand on préparait cette émission, tu aimes parler à leur propos de mise en abîme. Et je me souviens que tu as utilisé ce terme. Et à quoi ça sert ? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une mise en abîme ? Parce que moi, je connais l'histoire des deux miroirs qui se font face, oui, qui se reflètent à l'infini. C'est une mise en abîme. Mais est-ce que là, on est dans une autre forme de mise en abîme ?
Alors moi, j'utilisais de manière plus triviale la métaphore de la vache qui rit. Quand on regarde une boîte de vache qui rit, je ne sais pas s'il y en a encore maintenant, mais il y a quelques années, il en restait. On voit une vache qui rit et puis on voit qu'elle a des boucles d'oreilles et c'est une mini boîte de vache qui rit. Et on peut aller comme ça jusqu'au bout. Avec dans plein d'œuvres d'art, il y a ce phénomène de la mise en abîme. Donc la mise en abîme, c'est le fait que on creuse et le rituel, c'est un petit peu ça. Et le tableau de loge, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on creuse la signification, on part de l'idée qu'il y a un feuilletage de signification. Donc, on voit des choses, mais derrière ces choses, c'est du symbolisme pur jus. Il y a autre chose. Et donc, on a une approche feuilletée. On dévoile petit à petit, et Pierre Hadot a très bien montré ça dans le voile d'Isis. Hein, ouais, c'est magnifique, ouais. Les textes de Pierre Hadot sont toujours essentiels. Et donc, la mise en abîme, c'est participer à cette dynamique, parce que c'est un mouvement, c'est pas stabilisé, et notre regard, en tout cas, va être dynamique. Il y a un écrivain qui disait « Écoutez les morts avec les yeux ». Ça nous a été transmis, cela, ces tableaux de loge. Et en même temps, il y a une épaisseur historienne et historique. Et là, on est vraiment dans ce que nos maîtres vénérés, qui la formaient hier, sous-entendu la chaîne d'Union, nous ont laissé. Donc, comment, par l'image, on peut dire autrement le rituel ? Là, je viens de sortir, j'aurais dû l'apporter, un livre sur le Rose-Croix. Le grade de Rose-Croix maçonnique. Et je différencie bien, j'ai dit, les textes et rituels, ils sont étudiés, tout le monde les connaît, même si on peut en découvrir d'autres, grosso modo, le corpus, il est établi. Mais le corpus des images, il n'est pas établi. C'est-à-dire que si vous décidez, en tant que juridiction, dans le rituel de Rose-Croix, de mettre les enfers ou de ne pas les mettre, c'est complètement différent. Si vous décidez, et à une époque, à la fin du 18e, début 19e, on a dit on ne met plus les enfers. Donc, l'interprétation de la scène par rapport au banquet, c'est complètement différent. Vous mettez un agneau ou vous ne mettez pas d'agneau ? Vous mettez etc., etc. Sur un tablier, vous allez mettre des calices. Dans aucun rituel, il est question de calices, sauf dans les rituels de la scène, où les calices sont les verres. Mais sinon, il n'y a pas de calices dans le rituel, etc., etc. Donc, les images donnent à voir autrement ce que disent les rituels. Et donc, on s'aperçoit que le grade, par exemple, de Rose-Croix, il évolue beaucoup dans les commentaires des rituels. Il évolue beaucoup moins dans les rituels eux-mêmes. Et il évolue encore moins dans les images du Rose-Croix, que ce soit sur les tabliers, sur les tableaux de loge, etc. Les séquences de la Passion, elles sont là. Alors, par exemple, est-ce qu'on utilise la chambre noire avant la Passion, hein, avant le premier appartement? Bon, tout cela, on le démonte aux petits oignons grâce au tableau de loge. On voit très bien ce qu'il y a et comment, par exemple, les premiers tabliers, il y a une simple croix noire, mais en même temps, c'est comme le grade de maître. Hein, d'un côté, il y a le mobilier du temple, le temple maçonnique, et derrière, il y a le squelette, la tête de mort, etc. Eh bien, il y a une chambre rouge, une chambre noire dans le Rose-Croix, et c'est la verre et le revers du tablier. Et au début, c'est très net, très clair, très limpide. Et puis, petit à petit, ça va bouger. Donc, c'est ces analyses-là. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des frères complètement athées, complètement distanciés de toutes ces problématiques, et même qui sont les premiers contempteurs de la calotte, qui vont être très fiers d'arborer des croix,
C'est paradoxal.
Alors, c'est peut-être paradoxal, peut-être pas. C'est là, on touche à l'intime et à l'appropriation par chacun, et cette mise en miroir que tu évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vient chercher ?
Mais alors, je te coupe la parole, mais justement, on s'aperçoit que les rituels aujourd'hui sont, je vais utiliser le terme, souvent tripatouillés. J'utilise ce terme parce qu'on voit des modifications qui sont apportées et pas forcément, j'allais dire, très circonstanciées. En revanche, j'ai jamais vu un tableau de loge redessiné ou revu. On utilise, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, tu vas peut-être me contredire, mais j'ai l'impression qu'on touche beaucoup moins à l'image.
Oui.
Que au texte. Et aujourd'hui, il y a une tendance. Tu as parlé de déconstruction. Il y a des rituels. Aujourd'hui, on déchristianise, on démythologise. Ce sont des termes un peu barbares, mais c'est un fait. On s'approprie peut-être d'une façon différente ces textes. Comment tu expliques que l'image, en revanche, elle est beaucoup moins impactée par ça.
Elle est moins impactée, elle l'est quand même. C'est vraiment dommage, je l'ai pas... Et puis bon, on est à l'oral, mais éventuellement, tout à l'heure, je vous montrerai quelque chose. Par exemple, je reste sur le 18e. Sur les premiers tableaux de loge, il y a un grand cercueil. Et le Christ, à l'origine, dans les premiers rituels, sort du cercueil. Exactement comme il sortait des cercueils au Moyen-Âge. Puis petit à petit, il y a le cercueil, puis il n'y a plus que le linceul. Et puis petit à petit, quand vous voyez le vuillaume, bien le cercueil, il est poussé sur le côté. Et je dis un peu vulgairement, il se fait la malle. C'est-à-dire qu'il est vraiment évacué. Et il y a des tableaux de loge contemporains, j'en montre un dans le livre, sur l'iconographie du Rose-Croix, où cette fois-ci, il n'y a plus de cercueil du tout. Et vous savez que dans les rituels, on remplace le cercueil par une boîte. Hein, et dans certains, même, c'est pratiquement une enveloppe. Hein, bon. Et puis d'autres qui apparaissent alors qu'il n'y était pas au départ, le phénix. Tout le temps qu'il y a un grade de chevalier du phénix, il n'y a aucun phénix dans les rituels maçonniques. Mais quand, à la fin du XVIIIe siècle, le phénix, en tant que grade, disparaît, on incorpore petit à petit le phénix dans le Rose-Croix.
C'est comme le pélican.
Voilà.
Il n'est pas dans le rituel, mais on le retrouvera symboliquement.
Ah, on l'est.
On peut même le porter.
Absolument. Bien sûr, le pélican a une dimension essentielle pour le Rose-Croix.
Mais on est encore sur des origines, j'allais dire, peut-être chrétiennes, justement.
À l'origine, il est chrétien. Hein.
Voilà,
Le grade est complètement chrétien. Alors, il y a des discussions entre historiens. J'en discutais récemment encore avec Pierre Mollier. Est-ce qu'il est plutôt
Pierre Mollier, je fais une parenthèse, c'est l'archiviste du Grand Orient de France,
absolument,
c'est ça, hein.
Oui, et qui a travaillé beaucoup aussi sur le Rose-Croix. Donc, lui avait pris... Alors, il y a des tas d'articles. Bon, et les points de vue changent aussi. Il disait, il y a quelque temps, c'est plutôt d'inspiration calviniste. Parce qu'il y a le rapport à la grâce, le rapport... Bon. Et il dit, ah bah oui, avec tes images, effectivement, c'est plutôt un corpus d'images catholiques. Donc, les choses sont... Et selon l'angle ou la lunette dont on se sert pour s'approprier ou en tout cas étudier les rituels, les perspectives changent.
Calviniste, presque janséniste.
Alors après, il y a à l'intérieur...
Oui, on pourrait aussi débattre de ce sujet-là, c'est vrai.
Il y a les sociniens, il y a...
Enfin, non, mais je parlais de la prédestination.
Oui,
c'est quand même quelque chose qui pourrait apparaître assez incongru.
Absolument,
quand on parle de franc-maçonnerie.
Oui.
Mais bon.
Oui, mais il y a tellement de choses incongrues.
C'est une question.
Quand on voit le nombre de concepts théologisés empruntés par la maçonnerie au Moyen-Âge, voire au Père de l'Église, c'est très important.
Mais quand on pose la question, est-ce que tout le monde peut être initié? on est peut-être là aussi sur une forme de réponse par rapport à ces croyances.
Au XVIIIe siècle, il faut être chrétien, j'allais dire, de stricte observance pour être initié, en tout cas sur le papier, au grade de Rose-Croix.
C'est clair. Mais c'est vrai que, enfin, en même temps, c'est quand même aussi une bonne nouvelle que l'interprétation conserve un rôle important lorsque on observe un tableau de loge ou lorsque, effectivement, on a un vécu initiatique. Je pense que c'est quand même nécessaire.
Surtout que les tableaux sont complètement différents les uns des autres.
Tout à fait.
Donc, il y a une dimension artistique.
Absolument.
Il y a une dimension, en même temps, il y a des,
presque
des croquis
poétique, hein,
presque sur, pris sur le vif.
Ouais.
Et puis, en même temps, il y a des tableaux complètement établis avec un message vraiment derrière. Il y a tous les styles. Et c'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup les uns à côté des autres quand on le peut. Parce qu'il y a des grades pour lesquels on a un ou deux tableaux. C'est tout.
Et c'est vrai qu'on a, tous, hein, je pense, quand même, une relation très affective par rapport au rituel. Et ça, c'est certainement relatif à la fois à notre interprétation et à notre intuition, tout ce que l'on peut ressentir par rapport à ça.
Ouais.
Et c'est, je reviens en fait sur cette, justement, sur cette image de l'abîme. Parce que l'abîme, ça me fait penser à Maître Eckhart. C'est-à-dire, effectivement, ce qui est véritablement sans fond, c'est-à-dire cette vacuité nécessaire pour pouvoir recevoir autre chose qui est au-delà de notre compréhension immédiate.
Pour nos auditeurs, je dirais que Maître Eckhart était un mystique rhénan,
oui.
Qui est une vraie référence
voilà.
souvent utilisée,
ah,
ou
oui.
en tout cas étudiée en franc-maçonnerie.
Tout à fait. Ouais. Et dont je recommande la lecture des sermons, même si des fois ce n'est pas toujours facile, et qui fera d'ailleurs l'objet d'une de nos prochaines émissions sans problème.
Oui, on peut faire un peu de teasing.
On peut faire un peu de teasing, tout à fait. Et donc cet abîme, c'est quand même aussi cette capacité à déconstruire en nous pour pouvoir recevoir autre chose. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu sur cette expression de la tradition non humaine. Ça ne veut pas dire que cette origine non humaine soit complètement quelque chose d'éthéré, mais c'est simplement peut-être aussi, c'est ce qui échappe à notre compréhension immédiate. Et le fait justement de ne pas lui donner une fixité dans l'histoire permet d'avoir cette interprétation permanente.
On peut considérer aussi que puisque ça échappe, eh bien ça c'est proprement humain, d'avoir
bien
quelque
sûr.
Chose qui échappe justement.
Oui, c'est le mystère
de
en même
pas
temps.
Et d'où l'attrait du mystère, et d'où la... Et en même temps c'est pareil, le feuilletage des mystères, puisqu'il y a les petits mystères, les grands mystères. Alors à chaque fois, ça compte pas d'être mystérieux. Les petits mystères, tout le monde s'en fiche. Mais alors, les grands mystères, alors là, on approche du nec plus ultra, c'est très vendeur. Et notamment, c'est comme les hauts grades, les petits hauts grades. Ça intéresse plus grand monde aujourd'hui.
J'aime bien les petits
mais
hauts
les très hauts grades. Et là, c'est asymptotique. Il y a toujours un grade au-delà de...
Je n'avais pas vu l'aspect marketing des grands mystères, mais je découvre avec toi...
Moi non plus, mais...
Il existe, hein. Alors là, oui.
En tout cas, il occupe pas mal de frères dans les ateliers, c'est clair, c'est clair. Et Dominique, en t'écoutant, on s'aperçoit à quel point aussi la culture générale est un élément fondamental de compréhension des rituels dans lesquels nous naviguons. Parce qu'ils comportent en eux une forme de double lecture, dont sans doute, sans cet apport culturel, le deuxième niveau peut rester un peu inaccessible. Alors ma question, elle est simple, c'est peut-être une question à bazooka encore, mais est-ce qu'on peut s'arrêter au premier niveau de lecture et juste l'interpréter comme ça, à l'aune de sa seule sensibilité?
Oui, moi je crois que la maçonnerie, c'est un monde extrêmement vaste, avec des préoccupations éventuellement différenciées de la part des frères et des sœurs, et que chacun trouve son bonheur. C'est tellement immense. J'allais dire, il y a des maçons qui ne s'intéressent pas tellement au rituel, ou en tout cas, ils ne grattent pas beaucoup, et ils sont quand même très heureux. Et ils viennent avec passion travailler en loge. Donc moi, je crois que toutes les approches sont possibles et je revendique la plus grande fraternité à travers toutes ces approches éminemment respectables. Moi, il se trouve que, comment dirais-je, dès mon initiation, quand j'ai vu le tableau de loge, j'ai dit, faut que je comprenne cette affaire-là, cet objet au milieu, entre les candélabres, et bien sûr, sitôt l'initiation terminée, j'ai demandé des explications. Et une des explications qui m'a immédiatement choqué, et j'ai dit, qu'est-ce que je viens faire là, on m'a dit, c'est pas de ton grade, alors que c'était un tableau d'apprenti. Alors, j'ai compris qu'il y avait une grande maladresse de celui qui me répondait ça et qu'il aurait jamais même... Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai fait une thèse. C'est-à-dire que le fait de dire qu'un tableau d'apprenti, eh ben, ce n'est pas de son grade, est un paradoxe inouï. Et bien sûr, quand la réponse est vous, à chaque fois qu'un maçon dit « c'est pas de ton grade », ça veut dire que lui-même n'a pas compris le... Bon, ça, c'est un bon indicateur.
C'est ce que j'allais dire. C'est sans doute dire qu'il n'a pas la réponse lui-même.
Ça va de soi.
Tu verras ça plus tard.
Ouais. Voilà. Mais au-delà, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de réponses. Et que moi, les réponses, une fois qu'on a fait un catalogue de symboles du tablier, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut gratter. Et donc, bah, je m'y suis lancé avec... donc, je suis allé voir Antoine Fèvre. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais travailler sur les tableaux de loge. Il m'a dit, oui, je veux bien, mais sur les tableaux de loge de haut grade. Et moi, j'en connaissais pas beaucoup à l'époque. Puis, j'en ai trouvé 5, 10, 20, et puis 100, 150, 200. Et puis, en allant voir les obédiences, les juridictions, il y en a des centaines. Donc, en fait, quand on met tout ça en place... on peut presser la récolte et obtenir un sacré jus de citron. Il y a vraiment tout un travail considérable, mais à partir de sources qui sont peu connues. Et actuellement, il y a quand même, je pense que dans toutes les juridictions, c'est un peu le cas, les frères Vallesseurs cherchent à s'approprier les tableaux de loge, quelquefois en construisant, en proposant des lectures. Donc, ça veut dire que... Et ce mouvement, il est parallèle à celui du travail sur les grades dits intermédiaires, dont certains n'étaient pas du tout intermédiaires à l'origine, mais sont devenus intermédiaires. Exemple, le cinquième grade, qui est maître parfait, qui est un grade considérable, mais qu'on redécouvre. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, cette appropriation, simplement, il y a un risque. Il ne faut pas faire du grand n'importe quoi sous prétexte que, bah oui, je pense que on n'a pas... C'est de la dynamite qu'on manie, de la dynamite symbolique. Si on ne comprend pas, on va rajouter des symboles. Tiens, ça ferait joli si on mettait ça. On s'en fiche que ce soit joli. Il faut que ce soit signifiant, qu'il y ait une cohérence avec les textes, que ce soit un travail collectif et pas confié à celui qui a un bon coup de crayon en disant « Tiens, toi, tu vas nous faire le tableau de loge », c'est de la rigolade. C'est un vrai travail conceptuel, collectif, d'appropriation du rituel. Et à ce moment-là, on peut se lancer en prenant connaissance du corpus aussi des tableaux de loge au pluriel sur ce grade-là.
D'ailleurs, c'est ce qui fait que le temps est définitivement sacralisé lorsque le tableau de loge est tracé.
Bien sûr.
C'est là que, effectivement, ouais, comme à la fermeture d'ailleurs, quand ouais, il est effacé, qu'on quitte l'ordre.
Absolument.
Donc c'est bien, on est bien dans une... Tu parlais de mise en abîme, mais aussi dans une forme de porte.
Absolument.
Vers quelque chose...
C'est une fenêtre sur le symbolisme. Quand dans les premières auberges, on déploie le tableau de loge, eh bien, c'est ça qui va permettre... Et vous savez qu'il y a certains grades et certains rites où on dit « mes frères, formons la loge ». Et les frères se mettent autour du tableau de loge. Et donc, dans les premières gravures de tableau de loge, eh bien, on voit... et les premiers tableaux de loge, il y a deux ou trois symboles. Et puis après, en quelques années, il y a une efflorescence de symboles. Mais regardez dans les camps de concentration, les maçons qui traçaient une esquisse de tableau de loge dans le sable, dans la poussière, pour se retrouver autour d'une vraie loge. Et là, c'est de la construction. Mais en même temps, ça va bien au-delà de ce qu'on construit.
Ce qui montre aussi que le sacré a sa place partout.
Absolument.
Ce qui est une définition d'ailleurs du sacré.
Bah, sans doute. C'est clair, mais c'est vrai que le tableau de loge est une œuvre collective.
Oui.
Parce qu'il est tracé en loge à l'ouverture des travaux, certes par un frère qui a la qualification pour le faire, mais tous les frères présents ou les sœurs présentes, je dirais, participent à cette construction. Parce que cette chaîne fait qu'elle est complètement solidaire avec le frère qui est en train de construire ce tableau. Et ça, je pense que c'est aussi un phénomène important, parce qu'on parle souvent de l'égrégore, mais ça ne s'arrête pas simplement à quelque chose. Voilà.
Et de même que sur les tableaux de loge, je prends les trois premiers grades, les premiers de l'âge des tableaux de loge des premiers et deuxièmes grades, en fait, la place des officiers, représentée par leurs outils, et sur le tableau de loge, à l'exacte place où ils doivent être. Et le temple, le maçon qui regarde un tableau de loge dans une loge, voit et là, on est dans le processus de la mise en abîme, voit au milieu du temple ce qui l'entoure en réalité. Puisque les couleurs du tableau sont les mêmes que celles des tentures, que celles-là. Bon, tout ce travail de construction, il est fondamental. Hein. Et alors après, bon, il y a des frères qui disent oui, mais on peut ouvrir sur un coup de maillet. À mon sens, non. Enfin, historiquement et conceptuellement et j'allais dire affectivement, moi, je ne ressens pas comme ça. Sinon, on va au bar du coin et il n'y a pas besoin de maillet ni de qui que quoi. Voilà.
Ça se rapproche presque du concept de fractal, cette mise en abîme, parce qu'on s'aperçoit que dans un tout, une partie du tout est semblable au tout lui-même.
Oui.
Et qu'en fait, on peut comme ça aller à l'infini. Donc
c'est le macrocosme et le microcosme.
Exactement.
Hein. C'est vraiment...
Presque la mécanique quantique, au bout du bout. Bon, c'est un autre sujet encore. Hein.
Oui, c'est encore un autre sujet, oui.
Et d'ailleurs, tu as évoqué le souvenir de ton initiation. Tout à l'heure,
oui.
En parlant de la découverte.
Oui, de
la
manière un peu impudique, mais c'était
non,
pour
bien
vous montrer
non,
la logique, par le fil jusqu'à la thèse.
Je ne veux pas rentrer dans les histoires de pudeur, je te rassure totalement. Plus une question, j'allais dire une question qui tue, mais tant pis, je la pose quand même. Mais quand on est initié fondamentalement, à quoi on est initié? Comment tu répondrais à cette question?
Ah, alors là, c'est compliqué. C'est une, on ne le découvre qu'après, déjà. Parce qu'il y a quand même un rapport de confiance. Quand on est, j'allais dire, pieds et poings liés, c'est pas tout à fait ça, mais quand même la corde au cou, etc., eh bien, il y a un rapport de confiance, on se laisse guider. On n'est pas l'acteur majeur de la manip. On va le devenir, au bout du processus, on dit, voilà, la voie est là, maintenant la pérégrination commence. Mais au départ, lors du processus initiatique premier, on se laisse guider. Et la preuve, on est très guidé au début, dans les premiers voyages, moins guidé ensuite. Et bon, tout ça, tous les maçons connaissent. Donc, c'est une invitation, en fait. Et après, on va découvrir ce que l'on construit, mais individuellement et collectivement. Donc, cette dialectique de l'individuel et du collectif me semble déterminante, en tout cas dans la réflexion maçonnique et la manière dont on peut essayer d'être un peu efficace dans la construction de soi. Pensez à l'adage compagnonique, ce que tu fais, te fait. Hein, donc, ça, on le voit individuellement, mais collectivement aussi.
Ça rejoint ce que tu nous disais au début de cet entretien. La tradition se construit au fur et à mesure qu'elle se transmet.
Absolument.
Peut-être que là, on comprend mieux.
Oui.
Bon,
ouais.
C'est une des visualisations de ce propos que tu avais en début d'émission.
C'est clair, oui, parce qu'en fait, c'est vraiment tout ça. Comme tu l'as dit d'ailleurs au départ, c'est indissociable de l'initiation. Et ça pose la question de savoir si l'initiation, c'est un fait, c'est-à-dire ça arrive à un moment donné, point barre, ou est-ce que c'est une construction permanente? Et ça, c'est vrai que ça modifie, parce que le fameux slogan « Mes frères me reconnaissent pour tel », je pense que, comme tu le faisais un peu ressentir, pour moi, c'est un viatique.
Oui.
Ce n'est pas un état de fait. D'accord? Donc, « Mes frères me reconnaissent pour tel », c'est un message d'encouragement à moi de le démontrer, ensuite. Donc,
et c'est pour ça que c'est long. Et que c'est un processus individuel et collectif. Si c'était, vous avez engrangé, ça y est, vous avez bien regardé, c'est bon, maintenant on ferme, et bon, terminé, il n'y a plus d'initiation. L'initiation, c'est mettre sur le chemin, mais le chemin, après, il faut le parcourir.
Et donc ce sens de l'épreuve, ce sens du courage, qui est souvent d'ailleurs aussi illustré par cette succession mort-renaissance, est-ce qu'on retrouve ça majoritairement dans les traditions?
Bien sûr, mort-renaissance, dans pratiquement toutes les traditions en anthropologie, c'est du grand classique. Alors après, les modalités sont différenciées, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des paradigmes qui sont assez reconnaissables d'une tradition à l'autre. Hein. Mais c'est des schèmes anthropologiques qui sont, de même que les rites. Il y a toujours la mise à l'écart du profane, puis son intégration, puis enfin tout cela c'est très bien étudié et depuis longtemps. Il ne faut pas l'oublier.
C'est la question du sens de la vie finalement.
Oui.
In fine, ce qu'on retrouvera le point commun de toutes les traditions, on peut lire merci à Eliade d'ailleurs à ce sujet,
bien
qui
sûr,
est un grand spécialiste de l'analyse des traditions et des mythes.
Oui.
Mais c'est toujours cette question-là finalement à laquelle on cherche à répondre.
Oui.
Quand même, malgré tous les outils qu'on peut utiliser, malgré tous les profils qu'on peut avoir, historiens, scientifiques ou autres, à un moment cette question-là, vient sur le tapis, j'allais dire. Et la maçonnerie, et peut-être les voix aussi.
Le rite, comme tu parlais de Mircea Eliade, qui dit bien que le rite est une répétition. Il faut répéter dans le rite, répéter. Mais qu'au fur et à mesure des répétitions, la répétition va se charger. Et se charger notamment d'un discours. Et puis après, d'un discours sur le discours. Puis d'un discours sur le discours du discours. On retrouve notre mise en abîme. Et donc, il y a, et Mircea Eliade a cette phrase un peu cinglante, en disant, on passe du rite comme répétition au processus de rite comme répétant quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un simple mouvement. On fait trois petits tours de tableau de loge et puis s'en vont. Hein, c'est... Mais après, ça devient un contenu. C'est comme l'Orient, qui au départ est un décor, et en maçonnerie, à partir de Ramsès et même avant, devient un contenu. Hein, donc, le statut de décor est complètement modifié, puisque, bien sûr, selon le voyage que l'on fait, on s'approprie des connaissances venues d'Orient.
Alors, j'ai une question, parce qu'on va bientôt arriver au terme de notre entretien, mais j'avais une question d'actualité. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, on en a cité quelques-uns, et j'avais envie de savoir quel était le prochain, Dominique.
Le prochain, il est paru, enfin, il va paraître dans une semaine. C'est celui sur le Rose-Croix, donc avec beaucoup d'images, puisque ça s'appelle le grade maçonnique de Rose-Croix. J'ai volontairement, j'ai pas mis chevalier Rose-Croix, j'ai pas mis prince de Rose-Croix, mais j'ai mis le Rose-Croix avec l'idée, premièrement, que brancher le Rose-Croix sur le rosicrucisme est pas la meilleure piste. En tout cas, au plan historique, c'est complètement débranché. Hein. Mais en revanche, il faut le brancher sur les images qui ont beaucoup à nous dire. Et moi, j'ai découvert plein de choses en écrivant ce livre. Je croyais connaître bien le grade de Rose-Croix. Et en fait, quand on voit les motifs symboliques, quand on analyse le corpus des images, et pas seulement les tableaux de loge, je me suis un peu affranchi des seuls tableaux de loge, mais je les ai croisés avec les autres supports iconographiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ça me vient, l'idée me vient qu'il faudrait faire pour d'autres grades. Parce qu'il y a plein de grades sur lesquels, eh bien, on connaît le texte, on connaît les textes, mais les images, on les connaît peu.
C'était la question suivante. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une limite à l'œuvre de Dominique Jardin? Parce qu'on t'a donné un prix pour l'ensemble de ton œuvre, mais elle n'est pas terminée.
Donc, je reviendrai la semaine prochaine.
Non, mais tu viens de nous répondre en partie. Ouais. Tu as encore derrière d'autres sujets sur lesquels tu souhaiterais publier.
Oui. Et puis, cette idée de... donner à lire les images. Par exemple, j'ai beaucoup bossé, travaillé sur le 32e. Et puis, je me rends compte qu'effectivement, le 32e, eh bien, l'image du centre du camp, du 32, c'est le tétramorphe. Or, l'âge d'or du tétramorphe, c'est l'art roman. Que vient faire le tétramorphe au 18e siècle? Et en fait, c'est aussi le blason des anciens. Des Anglais. Hein. Donc, ce tétramorphe aussi, quand on voit les... Alors, j'étais très surpris, grâce à Claude Yagne, de trouver qu'il y a des manuscrits trinitaires dans lesquels on dit qu'il y a les anges, les séraphins, les chérubins, les ceci, les cela. Et hop, c'est barré. Le mot chérubin est barré et on met ce sont les Anglais. Le mot séraphin est barré, les Écossais, etc., pour des grades. Et l'armée du 32e, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond, selon l'hypothèse que je formule, mais que j'ai commencé à bien étayer, ce sont les hiérarchies ecclésiastiques du pseudo-Denis. Donc, en fait, il y a toute une lecture, puisqu'il y a beaucoup de concepts théologiques sécularisés qui vont être empruntés par les maçons, eh bien, ça donne une toute autre dimension, bien sûr, puisque les armées maçonniques seraient l'équivalent transposé des armées angéliques. Donc, vous voyez, sur quoi on débarque.
Tu parles de Denis l'Aréopagite,
oui.
C'est ça. Oui, tout à fait. On revient encore une fois à Maître Eckhart, parce que Maître Eckhart...
Bien sûr.
Par contre, il a fait évoluer ces données-là, quand même.
Oui, mais les maçons, peut-être moins. parce que... Alors après, les maçons trinitaires, en tout cas.
Ouais, ouais.
Parce que le trinitarisme, c'est un autre champ qui mériterait un ou deux ouvrages. Parce
c'est
que
clair.
J'ai des rituels inédits des trinitaires, mais les trinitaires sont aussi des groupes de pression. Les trinitaires, à l'origine, c'est saignant, au sens propre. Hein. Ils se balancent les seaux de sang à la figure, etc. Mmh. C'est impressionnant, incroyable.
Ça tombe
et puis
bien,
après,
oui.
Ça donne des grades, dans les derniers grades du RE2A, qui sont des grades d'obédience trinitaire. Hein, le chevalier du serpent d'airain, c'est trinitaire. Le 26e grade, prince de Merci, c'est complètement trinitaire. Hein, donc, enfin, il y a vraiment du travail à faire.
Ouais, ce qui est formidable, travail. C'est que plein d'auditeurs qui ne sont que, sans doute, 3e, 4e degré, grâce à toi, ont vu un peu sous le voile certains aspects encore méconnus.
On peut trouver ça dans toutes les bonnes librairies en même temps.
Non, bien sûr, mais là, il y avait
une explication de texte. Mais je voudrais juste faire
idem pour Hiram. Hiram, pardon, je te coupe. Oui,
vas-y.
Avec Noé.
Ouais.
Bien sûr,
après, on retombe sur
Hiram a gagné sur le fil, mais ça aurait pu être Noé. Et il y a des tableaux du grade de maître parfait, où il y a des motifs noachites et des motifs hiramiques.
Et la signification est différente.
Petit à petit, les motifs noachites disparaissent donc, et restent quand même stabilisés dans la maçonnerie d'adoption.
En fait, c'est avant ou après le déluge, quoi.
Hein, voilà. Si vous voulez aller voir des initiations noachites, eh bien, sans le noachisme, allez visiter les sœurs de la loge Cosmos, qui sont, à la Grande Loge Féminine de France, les dernières à préserver des rituels du XVIIIe siècle qui n'ont pas bougé, et où on voit la construction de la tour, on voit Noé, enfin bon, bref, extraordinaire. Il faut aller les encourager.
Bon,
on ne va pas y manquer, c'est sûr. Je vais juste refaire un tout petit retour en arrière, parce qu'effectivement, je pense que le point était important, et il ne faudrait pas qu'on se méprenne. Tu as complètement raison quand tu dis que la maçonnerie, c'est ouvert à tous, quel que soit le niveau d'instruction. Ça n'a pas forcément d'importance. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que autant l'intellectualisme est à bannir, parce que je pense que c'est plutôt un ennemi de l'initiation ou du parcours initiatique, autant la culture, c'est pas un gros mot. Et je crois que c'est un petit peu l'esprit, d'ailleurs, de ce qu'on fait aujourd'hui dans Témoignages écossais. C'est la culture, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose, effectivement, d'abordable. Et ça doit répondre à la curiosité qui fait partie de l'état d'esprit du maçon. Un maçon qui n'est pas curieux, pour moi, c'est toujours un gros point d'interrogation. Et vraiment, je pense qu'il faut encourager ça. C'est effectivement à tous les frères, à toutes les sœurs, d'être curieux et d'aller exercer cette curiosité, et bien évidemment dans des ouvrages maçonniques, mais aussi des ouvrages d'histoire, philosophiques, scientifiques, poétique, etc., etc. Je pense que c'est fondamental. Et franchement, quand on a affaire à véritablement des personnes qui l'expliquent bien, ce qui est ton cas et on t'en remercie, c'est tout à fait accessible.
Tu vois, je t'avais montré le mot curiosité avant même que tu le prononces. Il y a un maître par curiosité dans les grades maçonniques. Hein. C'est ça, la qualité déterminante. Est-ce qu'on est curieux ou pas ? Et après, cette curiosité, il faut la partager. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué trop, c'est le partage. Ça veut dire que toute la démarche initiatique, elle doit être partagée. Il y a une part d'intériorité profonde, mais il y a aussi une part de partage avec les autres membres de la loge, les frères et les sœurs de la loge. Et puis après, ça suppose du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est pour se caler les fesses sur une banquette et attendre que ça se passe, bon, l'initiation, elle est un peu en berne. Mais s'il y a un travail en loge indispensable, mais aussi un travail à côté, un travail collectif et individuel, c'est fondamental.
Bien sûr. Bien sûr, mais le partage, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que là, effectivement, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que le partage, il est essentiel parce que là aussi, ça pourrait nous ramener sur notre sujet, parce qu'il y a le partage dans le cadre de l'oralité, mais il y a aussi le partage dans le silence, qui est peut-être le plus important d'ailleurs.
Mais pour moi, à travers les bouquins.
Dominique, ce qu'on a découvert aujourd'hui et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on refera une émission avec toi, c'est évident. Il y a beaucoup d'autres sujets à évoquer ensemble, qu'on a seulement entreaperçus aujourd'hui, et on sera très très heureux de t'accueillir à nouveau, je suis sûr qu'on le fera. Mais néanmoins, maintenant qu'on arrive au terme de cet entretien, nous avons souhaité te soumettre, comme tous nos invités, un autre questionnaire de Proust Bon, légèrement revisité, il est vrai. Alors, est-ce que tu es prêt à l'affronter ?
Allons-y.
Allons-y ?
Oui.
Alors, Dominique, quel est le principal trait de ton caractère ?
L'obstination.
Quelle est ta vertu préférée ?
L'honnêteté.
Et qu'est-ce que tu détestes le plus ?
L'escroquerie intellectuelle.
Et quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ou une femme ?
La gentillesse.
Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence ? Ou la faute ?
Alors, toutes les fautes, mais ça ne veut pas dire tous les comportements.
Quelle est ton idée du bonheur ?
Le partage, on en parlait à l'instant.
Voilà. Sujet que tu voulais qu'on évoque justement.
Oui.
Quel est ton héros favori dans la mythologie, si tu en as un, bien sûr ?
Oui, alors ça me pose question et difficulté. J'en ai pas. Alors, j'en aurais peut-être un dans le cadre de la mythologie maçonnique. C'est Zorobabel, lorsqu'il dialogue avec Cyrus. Donc là, il y a quand même un jeu de ping-pong conceptuel. Quand Cyrus lui dit « Mais je te libère si tu me donnes les secrets », et Zorobabel qui dit « Pas du tout, on est des opératifs et ça vaut bien mieux que ta royauté, etc. etc. » Je simplifie l'échange. Et finalement, Cyrus lâche le morceau. Cyrus dit « Bah oui, acte 1, je te libère. Acte 2, je te crée chevalier et tu peux repartir à Jérusalem avec tous les trésors, etc. etc. » Donc cette idée de... Zorobabel, répond à beaucoup de, à mon sens, de qualités maçonniques.
Tu es le premier à nous parler de mythologie maçonnique, en tout cas de personnages de mythologie maçonnique, ça c'est formidable.
Ouais.
Et enfin, dernière question, Dominique, comment définirais-tu la transmission ?
Ben, comme une co-construction fraternelle. Ce n'est pas un secret qu'on se chuchote dans le creux de l'oreille, c'est plutôt une co-construction. Tout le monde peut apporter et...
D'accord.
C'est un travail.
Alors Dominique, un grand merci pour ta participation à Témoignages écossais. Et avant de clore les travaux, je laisse bien volontiers le mot de la fin, comme d'habitude, à Claude, qui a sûrement, au fond de sa poche, une petite dernière question à te poser.
Oui, je vais pas louper.
En fait, c'est un jeu entre nous, hein, mais c'est préparé en fait.
Oui, tout à fait. Bah, je vais pas rompre la tradition. Hein.
Faut pas, hein. Surtout pas aujourd'hui.
Alors, on a des fois tendance à dire que c'est sûrement pas facile tous les jours d'être catholique et d'être franc-maçon. Alors, est-ce que c'est facile tous les jours d'être historien et franc-maçon ?
Ah oui. Alors là, je crois simplement, quelquefois, il faut, à mon sens, encore une fois, je vous donne que des convictions personnelles, pas des certitudes, je crois qu'il faut savoir quelle casquette on coiffe. Est-ce que on est dans l'histoire stricto sensu, qui logiquement ne doit servir qu'à éclairer, en tout cas dans la démarche qui est la mienne, une démarche maçonnique, parce que sinon, il n'y a pas besoin de la maçonnerie. Si on peut aller passer sa vie dans les bibliothèques sans jamais aller en loge, et on va être tout content parce qu'on aura trouvé plein de rituels, etc. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le travail en loge, mais appuyé et fortifié part du travail d'historien. C'est une facette. Hein, on peut être très très heureux en maçonnerie sans du tout faire d'histoire. Moi, il se trouve que ça fait partie de ma joie de partager et de mes convictions de la nécessité de creuser. Voilà.
Dominique, encore merci pour ce moment de partage.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Témoignages écossais, saison 4, épisode 5. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission sur les ondes et dans l'ombre, notamment Claude Guichard, Stéphane Demazur, Guillaume Mignard et, comment l'oublier, notre chercheur en subtilité sonore, Julien Riquier, qui contribue à la qualité auditive de notre œuvre collective. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Témoignages écossais.